Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 14 mars 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Téhéran a fermement condamné l'exécution de plus de 80 personnes par le gouvernement saoudien. La Russie dit ne pas avoir l'intention de se retirer du front syrien, même au milieu de la guerre ukrainienne, et malgré les provocations du groupement naval de l'OTAN à ses portes, et au Burkina Faso, deux personnes ont été tuées dans l'explosion d'une mine. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'exécution massive de plus de 80 personnes par le gouvernement saoudien, la décrivant comme une mesure inhumaine qui contrevient aux principes fondamentaux des droits de l'homme et du droit international. L'exécution et le recours à la violence débridée ne sont pas une solution aux crises autoproduites et le gouvernement saoudien ne peut pas utiliser de telles mesures pour dissimuler son désordre politique et judiciaire et réprimer les gens, a déclaré dimanche 13 mars Saïd Khatibzadeh. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, dans sa déclaration de dimanche, ajouter que les récentes exécutions massives en Arabie Saoudite constituent un acte inhumain en violation des principes fondamentaux des droits de l'homme et du droit international. Cette mesure est également contraire à tous les principes des droits de l'homme et aux procédures judiciaires reconnues lorsque des condamnations à mort ont été prononcées sans respect d'une procédure régulière, a déclaré Khatibzadeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a critiqué les pays qui prétendent être des défenseurs des droits de l'homme pour leur inaction face à ces mesures aussi odieuses, la décrivant comme un signe de l'hypocrisie de ces pays et de leur utilisation politisée des droits de l'homme pour atteindre leurs objectifs politiques contre des gouvernements indépendants. La Russie dit ne pas avoir l'intention de se retirer du front syrien, même au milieu de la guerre ukrainienne et malgré les provocations du groupement naval de l'OTAN à ses portes. Le 13 mars, des avions de combat des forces aérospatiales russes ont effectué des patrouilles armées intensives au-dessus de la région syrienne du nord-ouest d'Idlib, où un des groupes terroristes sont présents et actifs. Selon le prétendu Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, des avions de combat entièrement armés ont survolé toute la région pendant des heures à partir de dimanche matin. Les patrouilles armées russes ont été surprenantes car la situation dans la province d'Idlib a été très calme. Aucune violation grave du cessez-le-feu dans la région, négociée par la Russie et la Turquie il y a plus d'un an, n'a été signalée ces derniers jours. Il est possible que les patrouilles armées aient été un avertissement à Hayat Tahrir al-Sham, affilié à Al-Qaïda, basé à Idlib. Un rapport récent a révélé que le groupe terroriste avait récemment déplacé des roquettes armées de gaz toxiques dans la banlieue sud d'Idlib. Un autre rapport parle des préparatifs en cours du groupe pour envoyer des terroristes combattre les forces gouvernementales en Ukraine où l'armée russe mène actuellement une opération militaire spéciale. Entre-temps, la Turquie, qui maintient une force importante à Idlib, continue de fermer les yeux sur le contrôle du groupe terroriste sur la région. Il paraît que l'armée russe n'hésitera pas à cibler le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham ou tout autre groupe terroriste à Idlib s'il tente d'organiser une provocation chimique ou d'envoyer des terroristes en Ukraine. Un responsable de la communication de l'Union européenne, Arotz Shadi Osman, a déclaré dimanche que la politique israélienne de colonisation dans les territoires palestiniens fait l'objet d'un rejet et compromet la solution à deux États du conflit israélo-palestinien, soutenue par la communauté internationale. La politique de colonisation est fondamentalement contraire au droit international et sape les chances de la solution à deux États sur les frontières de 1967, a-t-il indiqué à la presse. Le comité israélien de planification et de construction du district a approuvé vendredi un plan de construction de 730 nouvelles unités de logement à Pisgat Ze'ev, une colonie israélienne à Rotzest. M. Osman a appelé Israël, la communauté internationale et toutes les parties concernées à œuvrer pour préserver la solution à deux États et la possibilité de la mettre en œuvre à l'avenir. Les derniers pour parler de paix directe entre la Palestine et Israël, qui ont été parrainés par les États-Unis et ont duré 9 mois, se sont arrêtés en 2014 en raison de profondes divergences sur les questions liées aux colonies israéliennes, aux frontières et à la sécurité. Les Palestiniens veulent déclarer Rotzest comme la capitale de leur futur État. Les délégations russes et ukrainiennes reprendront leur pourparlers ce lundi 14 mars par liaison vidéo, a déclaré dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les négociations se poursuivent en permanence sous forme de vidéoconférences. Des groupes de travail sont constamment à l'œuvre. Un grand nombre de questions nécessitent une attention constante. Le lundi 14 mars, une session de négociation aura lieu pour faire le point sur les résultats préliminaires, a indiqué dimanche Mikhail Podolyak, conseiller du chef du bureau de la présidence ukrainienne. Les délégations ukrainiennes et russes ont déjà pris part à 3 sessions de pourparlers de paix présidentielles en Biélorussie depuis le 28 février, mais ces négociations se sont terminées sans avancée significative. 2 personnes ont été tuées dimanche 13 mars dans l'explosion d'un bus de transport qui a son passage sur un engin explosif improvisé sur l'axe Kayadori dans le centre nord du Burkina Faso, ont indiqué des sources concordantes. 2 pertes en vie humaine, 2 blessés et 1 quart de transport en commun complètement endommagé, a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Selon des sources sur le terrain, le bus de transport a roulé sur un engin explosif improvisé dans la localité de Tougouri, dans la région du centre nord. En plus des victimes, plusieurs passagers ont été blessés dans l'incident, a rapporté de son côté la radio Omega. Le 10 mars dernier, un camion remorque transportant des marchandises avait sauté sur une autre mine artisanale dans le village de Bouinga, commune rurale de Pisila sur l'axe Pisila-Tougouri, rappelle l'AIB. Cette attaque n'avait pas fait de victimes. Les transports ont été suspendus sur le tronçon Kayadori, selon le syndicat des transporteurs. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait entre 2016 et le 31 décembre 2021 plus de 2000 morts, dont 600 éléments des forces de défense et de sécurité, selon le gouvernement. Les autorités maliennes de la transition ont annoncé dimanche 13 mars la fermeture de certaines zones proches de la frontière avec la Mauritanie, où son armée mène des opérations militaires contre les éléments d'ACMI. Dans cette zone désormais fermée, des citoyens ont été visés et des dizaines de Maliens ont également été tués ces derniers temps. Les autorités maliennes, dans un communiqué publié par le ministère malien de l'Intérieur, déclarent que par souci de préserver les relations distinguées et de bon voisinage entre la Mauritanie et le Mali et de protéger les citoyens mauritaniens et maliens, les autorités maliennes ont décidé d'empêcher la circulation des civils dans les forêts de Ouagadou et de Gringali, où se déroule l'opération militaire Maleko. Cette opération, appelée Mael Echo, a été lancée depuis quelques semaines par l'armée malienne contre les éléments d'ACMI, notamment ceux du Front de Libération du Massina installé dans la forêt Ouagadou. Le gouvernement malien a réaffirmé le professionnalisme de ses forces et le respect des droits de l'homme, révélant que depuis la fin de l'année dernière, l'armée malienne a interrogé 29 citoyens mauritaniens en terre malienne avant de les relâcher. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Nucléaire, le coup fourré américain. Les États-Unis exploreront des alternatives pour continuer sans la Russie si Moscou ne recule pas d'ici la semaine prochaine de ses demandes d'exemption, indique le journal américain Wall Street Journal. Les États-Unis ne négocieront pas d'exemption aux sanctions liées à l'Ukraine contre la Russie pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et tenteront à la place de conclure un accord alternatif qui exclut la Russie si le Kremlin ne recule pas de ses demandes de dernière minute, a déclaré un responsable du département d'État américain cité par le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, l'un des principaux objectifs de politique étrangère du président Biden étant en péril, le haut responsable américain a déclaré que Washington commencerait à explorer des alternatives à l'accord au cours de la semaine prochaine si la Russie ne renonçait pas à ses demandes de garanties écrites l'exemptant des sanctions liées à l'Ukraine qui pourraient restreindre son commerce futur avec l'Iran. De telles garanties pourrait saper la panoplie de sanctions punitives imposées par l'Occident à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, à en croire le Wall Street Journal. Je ne vois pas la possibilité d'aller au-delà de ce qui est dans les limites du plan d'action global conjoint, a déclaré le haut responsable américain faisant référence à l'accord nucléaire de 2015. Je pense qu'il est assez sûr de dire qu'il n'y a pas de place pour faire des exemptions au-delà de l'accord. Le responsable a déclaré qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis était à portée de main, affirmant que seuls quelques problèmes retardaient un accord lorsque les pourparlers à Vienne ont été interrompus vendredi en raison de la demande de la Russie. Sans faire la moindre allusion aux conditions récemment posées par les Américains qui avaient compliqué le processus des négociations, le responsable a prétendu que les demandes de la Russie seraient une pierre d'achoppement et l'obstacle le plus sérieux pour parvenir à un accord. Les responsables européens ont déclaré que la Russie avait promis de répondre dans les prochains jours. Ils ont également commencé à explorer entre eux des options pour conclure un accord sans la Russie, ont déclaré deux diplomates américains. Nous saurions d'ici une semaine si la Russie est prête ou non à reculer, a déclaré le responsable américain. Une option pour les États-Unis et leurs partenaires serait de créer un accord intérimaire qui pourrait geler certaines des activités de l'Iran et annuler certains aspects de son programme nucléaire en échange d'un certain niveau d'allègement des sanctions de la part des États-Unis, mais l'Iran a toujours rejeté l'idée d'un accord intérimaire. Une autre option serait de créer ce que le haut responsable américain appelait une réplique du plan d'action global conjoint sans la Russie, qui assignerait ailleurs les tâches de Moscou dans l'accord. Les États-Unis blâment la Russie alors qu'ils ont toujours refusé d'entreprendre des mesures nécessaires pour la relance de l'accord nucléaire. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a écrit dans un tweet: l'arrêt annoncé dans les pourparlers à Vienne pourrait baliser le terrain au règlement des problèmes restants et à un retour définitif. Réussir le dialogue sera l'objectif principal de toutes les parties et aucun facteur extérieur n'affectera notre volonté commune d'aller vers une convention collective.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Selon le quotidien américain Wall Street Journal, les dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont refusé d'organiser ces dernières semaines des appels avec le président américain Joe Biden, le président américain qui voulait toujours, selon ce quotidien, demander aux dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour ouvrir le robinet de leur pétrole afin de contenir, si vous voulez, la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux du fait, en fait, de cette opération militaire de la Russie en Ukraine. Ben, comment peut-on expliquer ce refus, si vous voulez, des dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, d'autant plus qu'il y a eu ensuite une autre information qui est tombée, comme quoi, en fait, les Émirats Arabes Unis s'étaient pliés, si vous voulez, à cette exigence côté de Washington pour, en fait, augmenter la production de son pétrole. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre, et de regarder, d'écouter un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après.
La position des pays arabes de l'Asie de l'Ouest, comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qui sont les principaux alliés de Washington dans la région, envers la crise ukrainienne, pourrait être significative. Alors que les États-Unis s'attendaient à ce que les pays arabes se rangent du côté des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien et soutiennent leurs actions contre la Russie, Abu Dhabi et Riyad, ainsi que d'autres pays du Golfe Persique, ont d'abord tenté de faire preuve de neutralité, mais il s'est avéré plus tard qu'ils ont plus tendance à soutenir la Russie dans son opération militaire contre l'Ukraine. Les Émirats Arabes Unis ont été l'un des pays qui, avec la Chine et l'Inde, se sont abstenus de voter lors du vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution américain appelant au retrait des troupes russes d'Ukraine. D'autre part, alors que les prix du pétrole sur le marché mondial continuent de grimper en raison des sanctions américaines contre la Russie, les États-Unis ont appelé à une augmentation de la production pétrolière saoudienne, mais le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, a déclaré lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron que son pays était attaché à l'accord OPEP, plus avec la Russie, et fournira progressivement du pétrole brut au marché. Alors que les économistes prédisent que le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à $300 le baril à la suite de la crise ukrainienne et des sanctions américaines contre la Russie, l'accent mis par l'Arabie Saoudite sur l'accord OPEP pourrait être un désastre économique pour l'Europe et les États-Unis. De même, Mohammed bin Salman, qui n'est pas satisfait du comportement de la nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden contre l'Arabie Saoudite, est la personne de MBS. Dans une interview au magazine américain The Atlantic, il a pris une position sans précédent contre Biden et a dit qu'il se fichait que Biden l'ignore. En plus, ces dernières années, Washington a commencé à limiter son engagement militaire dans la région, même au moment où ses alliés les plus proches, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont été ciblés par des frappes de représailles d'un Sarala. À vrai dire, les pays arabes du Golfe Persique sont arrivés à cette conclusion que, premièrement, l'influence et le rôle américain en Asie de l'Ouest sont en déclin. Deuxièmement, ils ont évalué l'attitude des États-Unis envers l'Ukraine et sont arrivés à la conclusion que les États-Unis ne soutiennent fondamentalement pas leurs alliés en cas d'urgence.
Merci infiniment d'avoir choisi cette émission des débats. Et j'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous.
J'ai également avec moi pour cette émission depuis Paris ou Damas. Je ne sais pas si c'est Paris ou Damas.
Paris.
C'est depuis Paris, une analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à vous, à votre équipe et à votre invité. Bonjour.
Merci. Madame Midani, première question, comment expliquez-vous en fait ce qui se passe actuellement entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, si vous voulez, d'Amérique, de plus précisément Joe Biden, s'il vous plaît?
Alors, je crois et je l'espère que les Émirats Arabes Unis avec l'Arabie Saoudite commencent à comprendre effectivement le rôle des États-Unis par rapport à leurs alliés et par rapport à leurs alliés, entre guillemets. Ils demandent quand même, ils voient quand même que depuis le retrait de l'Afghanistan, la manière dont ils ont jeté leurs alliés afghans, la situation par rapport à l'Ukraine, la manière dont ils ont attisé la guerre aussi en poussant Zelensky et puis l'Union européenne aussi à attiser le conflit et à aller en guerre contre la Russie. Et la manière dont ils ont été, délaissés, en fait, hein, où il y a effectivement des déclarations claires et nettes que les États-Unis n'iront pas combattre à la place de leurs alliés. La manière aussi dont ils poussent les sanctions, en fait, ils poussent l'Union européenne dans des sanctions qui vont faire, qui vont mettre effectivement à genoux l'Union européenne, qui vont affamer et le peuple de l'Union, tous les peuples de l'Europe en fait, à commencer par l'Allemagne et la France en fait, les affamer dans un sens où interdiction du gaz et puis de l'énergie, de toutes les forces d'énergie. On sait que ça agit complètement en direct déjà sur les possibilités de chauffage et de l'industrie, et d'un autre côté aussi sur les possibilités d'approvisionnement, ce qui fait que effectivement ils sont en train de les pousser à la famine, je dirais. Et surtout pousser l'économie à une grave crise économique de l'Europe. Donc en fait, j'espère qu'ils ont compris que les États-Unis combattent avec le sang des autres, hein, et qu'aujourd'hui, en poussant effectivement, en voulant pousser l'Arabie Saoudite à augmenter la production du pétrole, c'est aussi pour continuer à attiser la guerre contre la Russie et éviter et trouver une alternative pour l'Europe au niveau du pétrole et de l'énergie. Je pense que Mohammed bin Salman essentiellement a compris ceci, surtout que Biden, depuis qu'il était élu, ils sont en train aussi de manier vis-à-vis du pouvoir saoudien à la fois la carotte et le bâton pour aussi soutirer le maximum d'argent, mais aussi d'un autre côté agiter le bâton de l'assassinat de Khashoggi, etc. Donc en fait, ils maintiennent la pression contre l'État saoudien pour le garder à leur botte, en fait, et pas du tout en tant qu'allié. Je pense que aussi les Émirats ont compris. Dernier point, je voudrais dire aussi que d'un autre côté, alors que les Américains affichent aussi une volonté de retourner à l'accord sur le nucléaire dont ils sont sortis de manière complètement illégale, etc. et qu'en même temps, il continue à vouloir attiser les contradictions entre l'Iran et l'Arabie saoudite, chose que l'Arabie saoudite a surmontée. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs rencontres avec l'Iran pour comprendre quand même que, j'espère qu'ils sont sur la voie de la compréhension, que l'Iran n'est pas un ennemi, mais c'est un ennemi qui était inventé par l'Occident, et qu'aujourd'hui, l'intérêt de tous les pays de la région, c'est de faire une complémentarité économique et d'être tous du même côté, et du côté des peuples, et du côté surtout du respect de la souveraineté des pays, et de leur indépendance.
Monsieur Beur, vous avez en fait entendu Madame Midani, qui espère voir les dirigeants de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis de se rendre à l'évidence, se rendre compte que voilà, les États-Unis combattent avec le sang des autres. Autrement dit, que les États-Unis ne sont pas, absolument pas, si vous voulez, de fiables, et abandonnent si leurs intérêts l'exigent, leurs alliés les plus proches. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, c'est une évidence que la manière de faire de l'impérialisme américain, c'est une évidence qu'elle apparaît aujourd'hui de plus en plus aux dirigeants du monde, pour la simple bonne raison que, comme il a été dit auparavant et justement, les États-Unis, on le voit aujourd'hui en particulier avec ce qui se passe sur le dossier ukrainien, les États-Unis se battent avec le sang des autres. Je prendrai un exemple et je vais revenir d'une manière plus globale en répondant à votre question. Les Américains, après que les Russes aient détruit l'essentiel de l'aviation ukrainienne, ils ne veulent pas évidemment faire une no-fly zone parce que ce serait mettre les pieds dans un engrenage dans lequel ils ne veulent pas. Et ils avaient comme idée d'envoyer des vieux avions que pouvaient encore avoir la Pologne ou la Roumanie, la Slovaquie. Alors ces deux derniers pays ont dit non, il restait des avions polonais. Les Polonais ont dit bah ouais, on veut bien, mais au début c'était non. Et puis après il y a eu dû avoir une pression américaine. Ils ont dit ok, alors on vous les donne sur la base de Ramstein en Allemagne. Et c'est vous qui allez les donner directement, les Américains, à l'Ukraine. Et les Américains évidemment ont dit ah non, pas nous. C'est une preuve qu'ils veulent se battre pour l'Ukraine jusqu'à la dernière goutte de sang d'un soldat européen, ukrainien dans le cas précis, et européen. Donc on a bien une situation qui démontre la duplicité américaine qui est visible. Il n'y a que les aveugles ou les fanatiques qui ne peuvent pas les voir. Et en ce qui concerne la non-réponse de l'OPEP+, en ce qui concerne l'augmentation du baril, c'est pas que, enfin l'augmentation de la production pour baisser les prix, ça sous-entendrait qu'ils viendraient à la rescousse des sociétés occidentales pour continuer la pression et la guerre qu'ils mènent contre la Russie, et pour se retrouver après avec, donc si la Russie s'effondrerait, il n'y aurait plus à ce moment-là que le monde occidental, et ils savent très bien que le monde occidental les considère pour simplement des bédouins du désert avec de l'argent, comme avait dit je ne sais plus quel président américain, que pourquoi Dieu avait donné le pétrole aux Arabes, c'était un peu compliqué. Bon voilà, je pars un peu à droite à gauche, mais pour répondre à votre question, c'est pour vous donner l'état d'esprit effectivement des Occidentaux et des Américains. Je pense qu'aujourd'hui le monde est de plus en plus éduqué. Je parle autant des masses d'ailleurs. En Europe, ce serait une autre question, mais en dehors de ce monde occidental, le jeu se voit de plus en plus clairement. Le fait qu'aujourd'hui l'affrontement qu'il y a entre le bloc eurasien, la Russie sur la première ligne, et le bloc occidental dévoile les lignes. Remettent des lignes de séparation, et que chacun y voit effectivement aussi ses propres intérêts. Alors il faut aussi se mettre dans la place des producteurs massifs de pétrole tels que l'Arabie Saoudite. Bon, le premier producteur de pétrole au monde, hein, ce sont les États-Unis, faut-il le rappeler. Mais pour autant, plus de pétrole, donc c'est faire baisser les prix. Ça peut, à long terme, c'est, enfin, à long terme dans un calcul économique, ça peut éviter une crise économique, puisque s'il y a une crise économique, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation d'énergie. Donc, c'est moins d'argent aussi pour faire rentrer dans les caisses des pays producteurs de pétrole. De l'autre côté, effectivement, c'est aussi aider les pays occidentaux dans leur combat, dans leur guerre contre la Russie. Et on sait très bien que la Russie, dans la région, au Proche-Orient, parle avec tout le monde. Et même si les rapports peuvent être rugueux, pour employer un terme diplomatique, avec certains pays, pour autant, c'est une puissance qui stabilise des fois momentanément ou qui peut stabiliser les positions des uns et des autres dans les affrontements qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, c'est pas, les États n'ont pas d'amis, il y a des alliances et des intérêts. Et dans le cas précis, souvent des fois, des États qui se sont affrontés, comme en Syrie, l'Arabie Saoudite s'est affrontée avec la Russie en Syrie. C'est extrêmement clair, comme avec les Émirats arabes. Mais aujourd'hui, on est dans une autre période et puis c'est pas sur le même terrain. Et je pense que beaucoup de gens voient que cet Occident, avec le pilier principal qui est l'impérialisme américain, va trop loin et qu'ils ne sont plus simplement les pantins et les vassaux bien obéissants qu'ils pouvaient l'être auparavant. Ils commencent à prendre en compte leurs intérêts, ce qui est assez amusant, alors que l'Europe, et l'Allemagne en particulier, va tout à fait dans le sens contraire, c'est-à-dire une soumission et une vassalisation encore plus grande en projetant dans les 2-3 ans de passer directement à 100% d'approvisionnement énergétique venant des États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans une tectonique des plaques géopolitiques et on voit les alliances se redéfinir. Et le temps d'avant, pour conclure, le temps d'avant où les États-Unis, Washington suffisait d'exiger pour qu'il puisse y avoir une réponse dans les pays dits du tiers-monde, comme on dit, c'est terminé. Et on le voit bien avec le vote à l'ONU contre la Russie. Beaucoup de pays africains ont refusé de voter ce genre de résolution. Donc on est dans un changement. Et ce changement, effectivement, il ne se passe pas comme il avait été prévu, comme je l'ai souvent aussi indiqué. Il ne se passera pas dans la négociation ou calmement. Il se passe par des affrontements, puisque les rapports mondiaux sont des rapports de force. Nous y sommes. Les lignes vont bouger. Les lignes vont encore bouger. Et j'espère pour le Proche-Orient que les ennemis d'hier, en particulier des deux côtés de la mer Persique, allons-nous dire, vont trouver effectivement peut-être des intérêts communs. Et l'intérêt commun, c'est de s'apercevoir que les États-Unis jouent de leur opposition pour pouvoir imposer leur pouvoir sur la région. Il est temps aujourd'hui que des alliances géopolitiques alternatives puissent s'épanouir afin de garantir la paix, à tout le moins dans le bloc eurasiatique, dans notre bloc.
Madame Midani, en fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis refusent d'ouvrir le robinet de leur pétrole pour satisfaire, si vous voulez, cette exigence du côté des États-Unis, plus précisément du côté du président américain Joe Biden. Est-ce que ces deux pays refusent en fait de prendre une telle décision parce que une telle décision pourrait être conçue à Moscou comme un acte, si vous voulez, pro-camp occidental mobilisé actuellement contre la Russie?
En fait, je crois qu'ils essayent de garder une distance par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis dans ce conflit qui oppose effectivement le monde occidental à la Russie, et ils essayent de prendre un peu plus de marge au niveau de la liberté qui est leur, jusqu'à présent, elle était vraiment très très limitée. Ils avaient pratiquement obligation ils prenaient leurs ordres des États-Unis. Donc maintenant, ils essayent de prendre un petit peu de marge, hein, en voyant quand même ce nouveau monde se profiler, d'une part, et puis ils ne sont pas les seuls en fait à prendre cette position. De plus en plus de pays du tiers-monde, comme l'a dit votre invité, effectivement, qu'il y a quand même une présence mondiale, je dirais, de plus en plus importante, en fait, de sa, de cette volonté de s'opposer à un diktat pur et simple américain. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que je crois que les pratiques des États-Unis, mais surtout aussi les pratiques de l'OTAN, par rapport à tous les autres pays aussi, c'est le diktat qu'on veut imposer, etc., provoque des réactions jusqu'à présent, je peux dire, importantes, même de la part de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
Monsieur Beurre, selon Mme Midani, en fait, le point qui vient d'être soulevé par Mme Midani, les pratiques des États-Unis et de l'OTAN provoquent en fait des réactions, même, si vous voulez, celles de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
Oui, il y a deux positions qui sont prises, mais pour moi, elles se rejoignent. Et même si pour certains pays, ou peut-être au sein des élites de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, les deux doivent cohabiter. La première, c'est... c'est une affaire entre vous, occidentaux, laissez-nous tranquilles, ça ne nous concerne pas, ça c'est le premier élément. Puis le deuxième élément qui a été indiqué, qu'on répète, et sur là-dessus évidemment nous sommes tout à fait d'accord, c'est qu'un nouveau monde se dessine. On a bien compris que nous étions passés aujourd'hui véritablement au XXIe siècle, c'est à l'heure actuelle. Et ce nouveau monde, il n'est pas encore évidemment restabilisé. Les alliances vont devoir se redéfinir. Et il est toujours bon pour un pays de ne pas se mettre à dos les acteurs que l'on voit importants de ce nouveau monde qui se dessine, en particulier dans ce bloc eurasiatique avec la Russie. Et la Chine en particulier. Et en cela, cette position, pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, effectivement, ils résistent. Peut-être qu'ils vont un peu céder, mais je ne pense pas qu'ils vont céder à 100% aux exigences. Ils vont essayer d'augmenter peut-être un petit peu, ça va certainement arriver, un petit peu ouvrir un peu le robinet, mais pas autant que le voudraient évidemment les Américains pour soulager l'économie mondiale en général, qui est autour de l'énergie, et en particulier leur première colonie, qui est l'Union européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, 2008, ça a été le tournant en réalité. C'est l'intervention, l'agression géorgienne contre l'Ossétie et l'intervention russe. Après, on a eu 2014, le coup d'État du Maïdan. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Russie a dit stop, on arrête de jouer l'hypocrisie. Nous savons très bien que c'est la position occidentale telle qu'elle est. Si on n'agit pas maintenant, c'est la destruction de l'État russe. Ce pourquoi la Russie agit aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes dans une situation qui oblige. Quels que soient les pays, quelle que soit leur précédente, à part l'Union européenne qui est totalement soumise, mais à part leur précédente, on va dire, affiliation de tel ou tel bloc, à se redéfinir. Et beaucoup préfèrent jouer effectivement la neutralité et l'attentisme, ce qui est finalement peut-être la meilleure position que puisse leur demander, c'est ne pas soutenir le camp occidental. On ne leur demande pas de soutenir le camp russe à la rigueur, mais ne pas participer à cette... à cette politique occidentale qui, de toute façon, ne sera pas positive pour eux à long terme. Donc, on est dans vraiment une redéfinition des alliances géopolitiques, ce qui explique l'hésitation des uns et des autres, qui est le début, pour moi, d'un repositionnement géopolitique mondial. Je préciserai, je terminerai là-dessus. Regardez tous les pays qui soutiennent aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, du côté occidental, ce sont toujours les mêmes pays, ces mêmes pays avec cette politique ultralibérale et mondialiste, et tous ceux qui sont du côté de la Russie, ou tout du moins qui tempèrent, sont tous des pays qui résistent à cet impérialisme occidental et qui ont une politique qui s'apparente à celle de la cause des peuples et non pas à celle à la cause des marchés.
Madame Midani, très rapidement, s'il vous plaît. Assistons-nous, oui, comme l'a dit en fait M. Beurre, à une redéfinition des alliances, si vous voulez, stratégiques, tant au niveau régional qu'international?
Cette redéfinition, elle se sent parfaitement dans les positions des différents pays. Je voudrais quand même rappeler la position du Pakistan, qui a toujours été l'allié des Américains et l'allié de l'Arabie saoudite aussi. qui a effectivement déclaré « nous ne sommes pas vos valets à tous les pays occidentaux ». Donc il y a ce mouvement effectivement qui se généralise et qui fait tache d'huile et qu'en fait c'est important. Les pays africains, pareil, donc je trouve que c'est très vrai et on espère que cette distance ou cette résistance va en grandissant parce qu'il y a des pays qui montent et des pays qui descendent. Et on voit bien que l'économie américaine comme l'économie européenne est pratiquement en train de s'écrouler, ainsi que l'influence aussi des Américains, la volonté, il y a aussi une volonté de faire des échanges dans les monnaies nationales, et donc refuser aussi cette annexion systématique au dollar,
merci
ce
beaucoup.
Que justement la Russie et la Chine ont commencé à faire.
Merci infiniment, Madame Aïssa Armidani, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
La mystique de l'absence, de l'infini des mythes, chez Sader Hedayat. Sader Hedayat est né à Téhéran le 17 février 1903, dans une famille cultivée qui avait accès à la littérature classique. Son arrière-grand-père était un poète et un précepteur royal. Hedayat avait une mère autoritaire et son père, un ordinitaire du pays, espérait faire de lui, comme de ses frères, un grand commis de l'État. Il avait ainsi, comme Kafka, des problèmes familiaux qu'il exprime dans La Chouette aveugle. Comme Kafka, Hedayat voulait être exclusivement écrivain. Se sentant mal à l'aise dans son pays et son travail de bureau routinier à la Banque nationale, il s'est volontairement exilé en France. Hedayat est considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'Iran moderne. Il est contemporain, entre autres, des écrivains iraniens Hushain Golshiri, Mohammad Ali Jamalzadeh et Sader Chubak. C'est à Hedayat que l'on doit, pour la première fois en Iran, une véritable écriture romanesque, car avant lui, la littérature n'était presque exclusivement que représentée par la poésie, avec sa prosodie particulière. Il est surtout célèbre pour son roman « La chouette aveugle », salué par les surréalistes lors de sa parution en français en 1953. Auteur d'une littérature crépusculaire et insolite, hanté par ses démons et vivant en marge de la société, il porte un regard désespéré, teinté d'une ironie impitoyable sur l'absurdité du monde et l'inguérissable folie de l'âme humaine. Esprit libre, il fut aussi un satiriste, un iconoclaste, influencé à la fois par les maîtres modernes de l'Europe, notamment Franz Kafka, et par le folklore et les traditions de la Perse antique. Pessimiste incurable, Hedayat se suicide dans la misère et l'extrême solitude en avril 1951 dans son appartement de la rue Championnet à Paris. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Issu d'une famille aristocratique,
Sader Hedayat poursuit ses études au Collège français Saint-Louis de Téhéran, puis après quelques temps en Belgique, à Paris de 1926 à 1930. Il fait une tentative de suicide au cours de ses études en 1927, mais il est sauvé par un petit bateau de pêcheurs des bords de la Marne. Il retourne ensuite en Iran pour travailler dans l'administration de la Banque nationale où il végète sa vie durant. Il voyage en Inde en 1936 pendant 2 ans et demi, ce qui lui fait forte impression. C'est au cours de ce voyage qu'il s'initie au moyen perse à Bombay. Il visite également l'Ouzbékistan soviétique en 1944. Il retourne en France en décembre 1950 pour se suicider à Paris 5 mois plus tard. Son œuvre est marquée par la hantise du suicide, mais traversée aussi par la description des mœurs persanes décrites avec humour et poésie. Traducteur du moyen perse, il avait une immense admiration pour le folklore iranien, allié à un certain mépris pour les superstitions. Son chef-d'œuvre, La chouette aveugle, écrit en 1936-1937, raconte les hallucinations d'un opiumman poursuivi par les interférences d'une vie antérieure. Sa publication en 1941 à Téhéran fit scandale. En France, l'ouvrage, traduit en français en 1953 par Roger Lecot, est paru chez l'éditeur José Corti et salué par André Breton. Dans Rencontre avec Sader Hedayat, le parcours d'une initiation, son disciple Frédéric Farzané révèle que l'écrivain était fortement marqué, entre autres, par Edgar Poe, Maupassant, qu'il traduisit, Rilke, Kafka, qu'il traduisit du français, Virginia Woolf, Hermann Hesse, William Faulkner ou Tchekhov. Outre ses romans, il est également l'auteur de 2 pièces de théâtre, de récits de voyage et de divers essais, dont l'un concerne Omar Khayyam. Bouffée courte, La chouette aveugle, 1936, Le chien errant, 1941, Enterré vivant, 1986, L'abîme et autres récits, 3 gouttes de sang, 1989, Les chants de Omar Khayyam, 1993, Hadji Aga, 1996, Le de Juvence et autres récits, 1996, La griffe suivie de l'allée, 1996, Madame à la villée et autres récits, 1997, et L'homme qui tua son désir, 1998, sont quelques œuvres de Sader Hedayat. La chouette aveugle est le roman le plus célèbre de Sader Hedayat. Il fut publié de façon confidentielle. Très petit nombre d'exemplaires, renéotypé à Bombay en 1936, puis à nouveau en 1941 à Téhéran. Traduit en français en 1953 par Roger Lecot et paru chez l'éditeur José Corti, La chouette aveugle fut saluée par André Breton comme étant un des classiques du surréalisme. La chouette aveugle est un roman aux allures fantastiques, dont le narrateur, personnage principal, est une incarnation moderne du solipsisme, survivant en marge du monde et réduisant les autres, la canaille comme il les appelle, à l'image d'ombres errantes. Fumeur d'opium en proie à des hallucinations, il est hanté par le maléfice d'une obsession qui tente à dévorer la réalité. Comme dans de nombreux autres récits de Sader Hedayat, l'ombre et l'obscurité, la fuite loin du soleil, dominent l'atmosphère lourde et pesante de ce roman onirique. Hedayat est l'un des auteurs les plus déconcertants et les plus étonnants, pour qui ne veut voir en lui que le conteur d'une société éphémère et d'un pessimisme qui lui était de toute évidence personnel. Ce serait méconnaître l'essence de son art que de ne pas relever au-delà de l'amertume et la noirceur une tendance à l'absolu. Jamais il n'y eut proie précieuse et pitoyable à laquelle la vie s'attacha avec un sadisme si cruel, avec une âme plus somptueuse. Il y a des écrivains qu'on ne rencontre que sous le manteau des ténèbres, qui se nourrissent de la conscience indélébile de la mort, de l'angoisse de l'être. Dans ses romans et nouvelles, Hedayat a transcrit en langage romanesque une spéculation métaphysique et a montré l'aventure humaine dans ses dimensions mystiques et fantastiques. Sa dualité aussi. Comment peut-on être à la fois très profondément iranien et occidentalisant? Peut-on, comme lui, vivre à la fois dans l'expérience du réel et dans le mythe? L'œuvre a des aspects morbides qui, tout en frôlant le désespoir, y échappent par de curieux détours. Il rejoint aussi l'agnostique pour qui la dégradation de l'être eut pour conséquence la création du monde matériel. Matière et esprit en lutte dans un monde où amour et douleur restent indissociables, car l'absolu de l'amour est la finalité du monde créé.
Thank you.